Isabelle, Swaita Yoga. Bienvenue dans votre nouvel exercice de Pranayama. Cet épisode va vous conduire dans un voyage intérieur et vous parler du rôle du mental dans le Pranayama. Les exercices que nous avons déjà évoqué et mis en place ultérieurement dans les autres épisodes, vous ont préparé à coordonner le mouvement avec le souffle, mais que serait ce pranayama s'il ne faisait pas intervenir le mental? Ce serait une simple gymnastique, il n'en est rien. En fait, le rôle fondamental du mental pendant l'exercice de contrôle de la respiration, vous amènera à découvrir des espaces intérieurs du corps dans lesquels vous placerez votre attention pendant chacune des phases. Selon le lieu à l'intérieur de vous-même que vous choisirez pour vous concentrer pendant les pranayamas, les effets ne seront pas les mêmes. Un exemple, si dans un contrôle du souffle, la concentration est constamment maintenue dans la tête, ou bien constamment dans l'abdomen, eh bien à la fin de l'exercice, les effets ressentis seront très différents. En fait, le mouvement du souffle est particulièrement lié à un jeu de polarité entre deux énergies fondamentales et complémentaires l'une l'autre, le prana et l'apana. Le prana, vous le savez maintenant, c'est l'énergie vitale. Mais en réalité, pour être très précis, le prana, c'est l'énergie vitale ascendante qui monte. Située en haut du corps, elle est mise en mouvement par l'inspiration, puraka, qui, en nous remplissant, nourrit notre vie. L'apana, c'est l'énergie vitale descendante, celle qui descend. Elle est liée à nos fonctions d'élimination et elle est située dans le bas du corps. Et elle est mise en mouvement avec l'expiration. On appelle Reshaka. Vous noterez que spontanément, chez toute personne, au fur et à mesure que nous avançons en âge, ces deux énergies ont hélas tendance à être moins actives. Avec l'avancée en âge, on élimine moins bien et on assimile moins bien, ce qui entraîne, de fait, une baisse de vitalité. Également, il y a une fâcheuse tendance à la stagnation de l'énergie dans l'abdomen. Tout en développant un équilibre de toutes les polarités, les yogins vont chercher deux choses. D'abord, à limiter l'affaiblissement des deux fonctions assimilation et élimination, qui, d'après eux, fortifie la vitalité et permet de ralentir le vieillissement. Et ensuite, améliorer la circulation de l'énergie qui va de l'abdomen vers la tête pour stimuler les capacités d'éveil de la conscience. Donc, je me résume. Soulignons que l'inspiration, puraka, est un mouvement de prise d'énergie, d'absorption, tandis que l'expiration, reshaka, est un mouvement de diffusion, d'élimination et de transfert d'énergie. La concentration mentale qui accompagne le souffle est déterminante pour contrôler ces deux mouvements d'énergie. Je vais maintenant vous parler des deux types de concentration mentale dans l'accompagnement du souffle. La première consiste à inspirer en partant mentalement de l'abdomen et en remontant intérieurement par la pensée dans la poitrine, puis à expirer en sens inverse en redescendant de la poitrine vers l'abdomen. Le mouvement du souffle part de l'abdomen et retour dans l'abdomen. Ce résultat sera donc un centrage dans cette partie-là du corps. Elle convient tout particulièrement lorsqu'il s'avère utile de se recentrer dans le corps, de s'ancrer en soi-même. La concentration mentale que je préconise ici consiste donc à inspirer le prana en partant de la tête et en redescendant intérieurement jusque dans l'abdomen, puis à expirer l'apana en remontant de l'abdomen vers la tête. Le souffle part de la tête et retourne dans la tête, favorisant ainsi une stimulation du cerveau et un éveil de l'énergie de la conscience. Vous voyez bien maintenant les différents sens? En résumé, je dirais que la pratique distingue deux sens du mouvement de l'énergie différents, ce qui permet d'avancer l'hypothèse suivante. Si on utilise l'inspiration qui part de l'abdomen et monte vers la poitrine et l'expiration qui descend de la poitrine dans l'abdomen, on pourrait envisager que le souffle se localise davantage dans le ventre, ce qui a pour conséquence une meilleure fixation de l'énergie dans l'abdomen, donc un enracinement. Si, à l'inverse, l'inspiration part de la tête pour descendre dans le corps, et que l'expiration remonte dans la tête, on peut envisager que le souffle énergie se localise davantage vers le haut, dans une direction, je dirais, d'ouverture et d'éveil à des dimensions plus psychiques, voire spirituelles. Ceci étant dit, afin de réaliser d'une manière la plus adéquate possible les exercices de pranayama avec la concentration mentale qui va bien avec, et selon ce que vous souhaitez réaliser pour vous-même, l'enracinement ou plutôt l'éveil et l'ouverture à des dimensions plus psychiques, avant toute chose, il faut que vous soyez parfaitement bien assis, dans une posture stable qui permet d'exercer la plénitude du souffle. Tous les textes fondamentaux du yoga décrivent cette posture assise en général dans la posture du lotus, Padmasana, ou la posture parfaite, Siddhasana. Mais franchement, s'asseoir en lotus n'est franchement pas à la portée de tout le monde, notamment nous occidentaux qui n'avons pas l'habitude de nous asseoir à même le sol en tailleur, ça sera peut-être beaucoup plus simple, donc n'hésitez pas à prendre plutôt la position du tailleur, ce qui va vous permettre déjà au moins de pouvoir placer vos exercices de pranayama avec une assise confortable. Il ne s'agit pas de faire de son assise une lutte, on est bien d'accord. Ce qu'il faudra rechercher dans cette posture assise, c'est avant tout l'allongement et l'alignement de la colonne vertébrale, c'est-à-dire un dos bien droit, mais sans tension, avec une cage thoracique bien épanouie, c'est-à-dire les épaules basses et légèrement étiré vers l'arrière, comme si vous vouliez se faire se retrouver les omoplates vers le bas et vers l'arrière, avec le sternum légèrement ouvert et proéminent. L'attitude doit être tenue fermement immobile dans un état intérieur de bien-être. C'est pour ça que je l'appelle Sukhasana, la posture agréable. Pourquoi on vous demande de croiser les jambes? En fait, cette posture a deux avantages. En premier lieu, le fait d'avoir les jambes croisées, par exemple en tailleur ou en lotus, freine la dispersion de l'énergie dans les jambes au profit de la poussée de cette énergie dans la colonne vertébrale. C'est d'ailleurs une recherche constante dans le Hatha Yoga. Et par ailleurs, les jambes croisées correctement permettent une meilleure stabilité de l'assise. Ça présente l'avantage d'être un point d'appui pour redresser le rachis et mieux placer le buste. Vous utiliserez pour cela, au besoin, n'hésitez surtout pas, un petit coussin qui va vous permettre de justement basculer légèrement le bassin pour redresser le rachis et sentir que votre colonne est bien allongée jusqu'à la nuque. Et une nuque allongée, ce n'est pas le menton qui se lève, au contraire, il sera légèrement enroulé vers la gorge. Et cet alignement du rachis, de la colonne et des cervicales va participer au mouvement d'éveil de l'énergie vitale du bassin vers le cerveau. Toutefois, en cas de difficulté pour prendre une telle posture assise, il est tout à fait correct de s'installer assis sur une chaise, le dos droit, avec les mains sur les cuisses, pour retrouver tout simplement les critères d'alignement de la posture classique. Je vous souhaite maintenant une belle concentration mentale dans laquelle vous pourrez jouer avec les différents sens de respiration que je vous ai proposés, le souffle éveillant ou le souffle recentrant. Et si vous en avez l'envie, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça s'est passé. Brièvement, je résume. Vous pouvez commencer en posture assise, en tailleur ou en lotus ou sur une chaise. Essayez une inspiration qui part de l'abdomen et monte vers la poitrine. Petit temps de pause, l'expiration qui redescend de la poitrine vers l'abdomen. Plusieurs fois. Inspire, ça part de l'abdomen, ça monte vers la poitrine. Petite pause. Expiration qui redescend de la poitrine vers l'abdomen. Une troisième fois, inspire, ça part de l'abdomen, visualise cela montant vers la poitrine, légère pause, expire et redescend de la poitrine vers le ventre. Prenez le temps de quelques respirations de détente, respiration très naturelle, sans contrôle. Avant d'essayer le sens inverse. Visualisez maintenant un point au centre de la tête. Inspirez. Expirez. Allez, Inspirez, ça part de la tête et ça descend dans le corps. Petit temps de pause. Expire, fais remonter ce souffle dans la tête. Inspire, ça part de la tête pour descendre dans le corps. Jusque dans le bassin. Petit temps de pause. Expire, remonte du bassin vers la tête. Encore quelques instants, quelques fois, pour vous-même. Inspiration, ça descend. Expiration, ça remonte. Une dernière fois si vous le souhaitez pour vous-même. Voilà. Retrouvez un souffle de détente. Une respiration tout à fait naturelle, sans chercher à contrôler ni à observer quoi que ce soit. Et voilà. Il est donc possible de penser que les deux sens du souffle sont cohérents, mais qu'ils ont des propriétés différentes et complémentaires. Donc, il vous appartient de choisir le sens du souffle en fonction des résultats que vous recherchez. Je vous souhaite une très belle exploration. À bientôt. Namasté.